Le débrief éco en partenariat avec le Cercle des économistes comme tous les dimanches. Ce soir encore, deux débats d'actualité. Emmanuel, avant de parler de la Turquie qui vote aujourd'hui et qui inquiète l'Europe, restons en France avec l'épineuse question de la réforme des retraites. Elle est en préparation et elle aussi, elle inquiète.
Oui, besoin de réformes sur le plan économique, mais réformes ultra sensibles sur le plan politique, car si les retraités ne descendent pas massivement dans la rue, ils représenteraient un vrai risque dans les urnes. Jeudi dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu'elle souhaitait revoir les règles d'attribution et de calcul des pensions de réversion, le dispositif qui permet aux veuves et veufs de toucher en partie la retraite du conjoint décédé. Ce midi, ce dimanche, le ministre de l'Économie l'a dit également, ces pensions doivent être revues pour être plus justes et plus efficaces. Alors, est-ce un nouveau coup de boutoir après la hausse de la CSG pour les retraités aisés, entre guillemets, simple ballon d'essai pour voir les réactions ou révolution copernicienne, c'est ce que nous allons voir.
Et on va en débattre avec Christian Saint-Étienne du Cercle des économistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers et face à vous, Marc-Olivier Padis, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des études de Terra Nova. Emmanuel, vous parliez à l'instant de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Repenser les retraites, dit-elle, rendre les pensions de réversion plus justes et plus équilibrées. On va l'écouter.
Vous le savez, il existe aujourd'hui 42 régimes de retraite différents. Chacun a ses propres règles. Et ces différences s'appliquent notamment aux pensions de réversion, dont les paramètres ne sont pas du tout les mêmes selon les régimes. Il est donc nécessaire de remettre à plat cette diversité de règles qui conduit aujourd'hui à de grandes injustices entre les Français qui vont avoir droit à des pensions différentes alors qu'ils sont confrontés exactement au même drame du décès de leur conjoint.
Agnès Buzyn, c'est vrai que c'est un sujet délicat, Christian Saint-Étienne. Vous pensez que cette réforme des retraites est bien engagée ?
Non, parce que l'aborder sous l'angle des pensions de réversion n'est pas le bon angle. Le problème central, c'est un problème de vieillissement de la population. Partout ailleurs, on y répond par un allongement de la durée de cotisation ou un recul de l'âge de départ à la retraite. Or, Emmanuel Macron a exclu ces deux paramètres. De ce fait, on cherche des économies ailleurs. Alors, effectivement, c'est vrai que les paramètres des règles des pensions de réversion ne sont pas les mêmes entre les régimes. Bon, on peut aller vers une harmonisation. C'est une spécificité française aussi, les pensions de réversion. Donc, il y a peut-être globalement des économies mineures à faire, mais ce n'est pas l'axe central de la réforme. Mmh. L'axe central, c'est vraiment le recul de l'âge de départ, comme partout ailleurs.
Marc-Olivier Padis, votre avis sur cette question. Ça représente beaucoup les pensions de réversion aujourd'hui en France ?
Ça représente 12% des dépenses de retraite, donc c'est pas complètement négligeable. Ça touche à peu près 4 millions de personnes et pour presque 90%, ce sont des femmes qui touchent ces pensions parce qu'elles ont eu des carrières moins continues ou du temps partiel ou elles n'ont pas travaillé. Bon, donc c'est quand même et puis c'est très sensible d'un point de vue politique évidemment. Donc surtout dans un pays qui croit beaucoup à l'idée d'égalité, c'est très sensible. Mais pourquoi est-ce que ce sujet apparaît ? Ce n'est pas extrêmement clair. La ligne qu'avait donnée Emmanuel Macron pendant sa campagne, c'était la justice du système. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des écarts, des règles d'attribution trop différentes d'un système à l'autre. Alors, si je peux différer un peu par rapport à ce qu'a dit Christian Saint-Étienne, je pense que la réforme qui consiste à allonger la durée de la retraite, on l'a déjà faite. En fait, maintenant, on prend en compte le nombre de trimestres cotisés et ça, on a déjà allongé tout ça. Et donc, il n'y a pas d'urgence de ce point de vue-là. Les dispositifs ont été pris. Et d'ailleurs, nos systèmes de retraite ne sont pas dans une urgence financière. Là. C'est plus un problème de lisibilité et de sentiment de justice qui garantit la pérennité du système.
Donc un système, enfin une réforme mal expliquée, mal comprise aussi. Christian Saint-Étienne, ces mesures là dont vous parliez, retarder l'âge de départ, allonger la durée de cotisation, Marc-Olivier Padis dit qu'on y est déjà.
Non, on a fait une partie du chemin. On a maintenant un âge de départ qui est à 62 ans et une durée de cotisation qui est à 42 ans et demi en direction de 43 ans, mais assez tard vers 2030.
Donc il faudrait pousser
donc,
à combien ?
Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin qu'ailleurs parce qu'on a une démographie qui est meilleure, mais les calculs qui ont été faits par le Corps et d'autres institutions montrent qu'avec une productivité du travail qui augmente peu, il faudrait aller vers un âge de départ de 64 ans et une durée de cotisation de 44 ans. Donc en fait, sur la durée de cotisation, c'est juste un an de plus. Oui. Et sur l'âge de départ, c'est même pas deux ans de plus parce qu'il y a déjà eu un accord Agirc-Arrco qui pousse à 63. Donc c'est en gros un an de plus sur ces deux paramètres.
Mais sur le plan, on parlait de la lisibilité de la réforme, sur le fait que c'est quand même difficile à faire passer sur le plan politique. Et en ligne de mire, il y a quand même les retraités. Il y a eu la hausse de la CSG. Là, il y a les pensions de réversion.
C'est les dindons de la farce, Marc-Olivier Padis ?
Alors, ce n'était pas illégitime que les retraités contribuent à un effort national. Évidemment, dans les calendriers du gouvernement, c'est assez mal tombé parce qu'ils ont décalé ce qui était gain de pouvoir d'achat et puis retenu. Mais surtout, finalement, pour le moment, on ne fait qu'ouvrir une discussion. Et donc, il faut savoir ce qu'on attend.
La CSG, c'est déjà fait.
Oui, la CSG, c'est déjà fait. Mais sur les retraites, on ne fait qu'ouvrir une négociation. Toute la question, c'est savoir si le gouvernement veut laisser le temps à la négociation aux partenaires sociaux. Et d'ailleurs, est-ce encore aux partenaires sociaux de gérer ces paramètres de retraite ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ce soit les parlementaires ? Parce qu'après tout, c'est des choix qui engagent la nation tout entière. Mais là, on est juste au début d'une négociation. Alors, ça peut sembler un peu brutal de dire on va mettre tous les sujets sur la table, mais ça ne préjuge en rien du débouché de la négociation.
C'est très sensible quand même, les pensions de réversion. Ce que touchent les conjoints des décédés, oui. C'est quand même pour certaines familles, enfin pour certains foyer, c'est quand même très important sur le plan financier, Christian Saint-Etienne.
Pour certains foyers, c'est décisif. Enfin,
est-ce qu'on peut imaginer, par exemple...
Il peut ne pas y avoir d'autres revenus.
Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on s'attaque aux pensions de réversion, mais pas pour les retraités existants, c'est-à-dire
Ah oui, ça, je pense que c'est assez probable que s'il y a une harmonisation, ça sera sur les entrants. Mais c'est pour cela...
Un peu comme les cheminots à la SNCF, oui. Finalement, la réforme.
Mais c'est pour cela que je préférerais qu'on aille d'abord vers une réforme d'ensemble où on bouge tous les paramètres, y compris la durée de cotisation et l'âge de départ, parce que si on ne le fait pas, on a quand même des prévisions qui montrent qu'il y a des déficits anticipés. Déjà, on est revenu en déficit, et puis il y a des déficits croissants vers 2030-2040. Bon, je préfère qu'on règle une fois pour toutes ce dossier, et qu'au passage, on fasse une harmonisation, certes, des règles pour les pensions de réversion, mais aussi pour les conditions d'obtention des retraites, mais sans qu'il y ait une baisse significative du pouvoir d'achat des retraités, parce que ça a déjà eu lieu et on arrivera assez vite
un
équilibre qui sera défavorable aux retraités, et ça, c'est pas possible sur le plan politique et sur le plan social.
Marc-Olivier Padis, rapidement.
Oui, il y a deux choses à regarder. Il y a les règles d'attribution. Est-ce qu'elles sont équitables ? Est-ce que c'est les mêmes pour tout le monde ? Est-ce que c'est assez lisible ? Et puis, il faut voir aussi les versements effectués au total, parce que comme c'est des règles extrêmement compliquées, etc., il faut voir ce qui est versé. Est-ce que l'argent va aux bonnes personnes ? Est-ce qu'il faut plafonner ? Donc il faut aussi préciser les objectifs qu'on se donne.
On marque une pause. On va parler de la Turquie dans un instant.
France Info.
La suite du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cugny et Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes et Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova. On va donc parler de la Turquie maintenant. La Turquie qui a voté aujourd'hui, élection présidentielle et législative, c'est important. Et c'est un scrutin qui peut avoir de très lourdes conséquences économiques.
Oui, en 15 années de pouvoir, le président Erdogan a profondément transformé le pays. Mais l'a-t-il fait en bien aux yeux des économistes ? Après des années de reprise, l'économie turque a replongé au cours de la dernière décennie, alors qu'Erdogan ferraille pour asseoir définitivement son pouvoir et entrer dans l'histoire, un peu comme l'égal du fondateur de la République turque Mustafa Kemal, la situation actuelle présente-t-elle un risque pour l'Europe, un facteur déstabilisant supplémentaire, peut-être après l'Italie, l'Espagne, la Pologne ou encore l'Autriche ?
Alors Erdogan qui serait sur le point de l'emporter selon les derniers résultats partiels, on va écouter son principal opposant, Muharrem İnce, c'est l'opposant du président sortant et il était en meeting hier, écoutez.
Si Erdogan est réélu, vos téléphones seront toujours sur écoute. Si Erdogan est réélu, nous continuerons de vivre dans la peur. Mais si demain soir c'est İnce qui l'emporte, alors l'économie va reprendre. Et si demain soir c'est İnce qui l'emporte, alors le dollar va baisser, les intérêts vont baisser, l'euro va baisser.
Marc-Olivier Padis, si on écoute Muharrem İnce, ça va pas fort en Turquie actuellement.
Oui, c'est intéressant parce qu'il lie les deux questions. Il y a vraiment la question liberté publique, sécurité, le durcissement du régime depuis le coup d'État manqué. Et puis, il lie effectivement avec la situation économique. Alors, la situation économique, elle n'est pas si désastreuse non plus parce qu'ils sont à un taux de croissance en gros de 5% par an. On a eu les chiffres tout de suite de la croissance française. Nous, on aimerait bien avoir 5%. Ça semble complètement inaccessible pour nous. Mais comme on a entendu dans le petit extrait sonore, le problème, c'est la baisse très forte de la livre turque qui perd de la valeur. Et ça, c'est un problème parce que ça augmente le prix des importations en Turquie. Et les Turcs importent énormément de biens. Et par conséquent, ces importations, c'est plus cher. Et donc, ça augmente l'inflation. Et donc, les gens ont le sentiment de perdre du pouvoir d'achat. Et donc, c'est une situation quand même qui n'est pas très, très bonne pour l'économie.
Alors, la faute à qui ? À Erdogan, Christian Saint-Etienne ?
Il y a deux Erdogan. Il y a eu le premier, quand il a été élu, pendant 5-7 ans, il faisait à peu près tout bien. Il a ouvert son pays, il a démocratisé, il a accéléré, accentué les liens avec l'Europe. Et puis, après, il y a eu une dérive personnelle vers le pouvoir absolu, qui est marquée, bien sûr, par le référendum dont vous avez parlé tout à l'heure, d'avril 2017. Alors, ce référendum est terrifiant. Il donne absolument tous les pouvoirs au président. Il pourra nommer le gouvernement. D'abord, on supprime le poste de Premier ministre. Le Parlement devient un Parlement croupion. Il va nommer aussi les plus hauts magistrats. Donc, il aura tout le pouvoir. Or, c'est un homme qui met en prison à un rythme accéléré. Plus de 200 000 opposants sont en prison maintenant. Comme le disait le principal opposant, il y a une volonté des trois principaux partis d'opposition de s'unir face à Erdogan. Il y a bien sûr le parti républicain du peuple, là, dont le représentant parlait à l'instant. Il y a le parti conservateur, le parti des islamistes du parti de la
félicité. Alors la meilleure solution,
félicité.
Ce serait quoi ? Ce serait un retour d'Erdogan ? Parce que là, visiblement, enfin, les derniers chiffres lui donnent plus de 58% après le dépouillement de plus d'un quart des bulletins. Or, il avait besoin de recueillir plus de 50% des voix pour éviter un second tour. Donc visiblement, c'est plié.
Oui, a priori, c'est plié, mais ce n'est que le début. Je ne sais pas si les 3 millions de... Parce que dans les électeurs, il y a 3 millions d'électeurs qui ne sont pas en Turquie et qui votent massivement pour Erdogan. Donc, est-ce qu'ils ont été dépouillés dans les premiers dépouillements ou pas ? On ne sait pas. Mais si, en tout cas, ça se confirme, ça veut dire que la Turquie va vers un pouvoir personnel extrêmement dur.
Et donc, sur le plan
économique... D'un leader qui se prend pour le leader naturel de l'ensemble des pays musulmans.
Donc, sur le plan économique...
Ça veut dire deux choses. C'est que d'abord, il y a un peu une dérive affairiste de Erdogan et de sa famille qui s'approprie énormément de. Ils ont des affaires immobilières, etc. Et la deuxième chose, c'est que le président interfère dans l'économie en permanence. Son opposant, celui qu'on a entendu tout à l'heure, a dit aussi qu'il garantirait l'indépendance de la Banque centrale parce que Erdogan empêche la banque de réagir par rapport à cette baisse de la livre dont je parlais. Et donc, s'il veut agir sur tous les leviers économiques. Là, en plus, maintenant, c'est assez confus, son action. Donc, les investisseurs n'ont plus confiance. Oui. Et donc, il y a eu une chute massive des investissements étrangers dans le pays, plus une chute du tourisme.
Alors,
donc,
si on revient à la question initiale
difficile de
ce débat, quel impact sur le reste de l'Europe ? Est-ce que la Turquie peut mettre le feu à ce qui reste aujourd'hui de l'Europe ?
Oui, après potentiellement, l'Italie, l'Espagne, si Erdogan continue à avoir des discours... Dans l'orientation de ceux des 18 derniers mois, bien sûr, c'est un vrai problème pour l'Europe, parce que d'abord...
La Turquie ne fait pas partie de l'Europe, mais
la Turquie est candidate, mais en même temps, il se montre extrêmement méprisant vis-à-vis de l'Europe, et surtout, il prône un régime qui n'est pas du tout laïque. Et donc,
c'est plus un problème politique qu'économique, parce que, disons, l'Europe est le premier partenaire de la Turquie, mais les difficultés économiques de la Turquie, c'est surtout un problème pour les Turcs eux-mêmes. L'effet de retour sur la zone européenne et même la zone euro, à mon avis, est assez faible. En revanche, d'avoir comme partenaire la Turquie, qui est dans une dérive autoritaire, c'est extrêmement préoccupant.
Mais aujourd'hui, on les aide financièrement, l'Europe les aide financièrement justement pour être un rempart sur les migrants, par exemple. Donc là, ça pourrait être un vrai problème.
C'est vrai qu'on a passé un accord avec eux qui n'est pas extrêmement glorieux pour qu'ils stabilisent les réfugiés syriens. Et c'est ce qu'ils font. Ouais. Et donc, il y a beaucoup moins de Syriens qui arrivent en Grèce aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt ça l'enjeu sensible pour les Européens.
Christian Saint-Etienne.
C'est un pays de 80 millions d'habitants avec une armée puissante. Erdogan a des objectifs en Syrie. Il a une politique anti-kurde sur l'ensemble du Moyen-Orient. Donc, son élection sur le plan politique et stratégique est majeure. On est totalement d'accord sur le fait que sur le plan économique, c'est secondaire. Mais sur le plan politique et stratégique, c'est majeur pour l'Europe, pour le Moyen-Orient, pour l'ensemble du bassin méditerranéen.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes, Marc-Olivier Padiste, directeur des études de Terra Nova, Emmanuel Cuny, bonne soirée à vous.
À dimanche prochain.
Et à dimanche prochain, tout à fait.